Chapitre 10. Le père de Roland venait juste de rentrer des hautes terres, et il paraissait déplacé au milieu des tentures et des fanfreluches en mousseline du grand hall de réception dans lequel le jeune homme n'avait été que récemment admis comme signe de son état d'apprenti. Stephen Descane était vêtu d'un jean noir et d'une chemise de travail bleue. Sa grande cape, poussiéreuse et zébrée de crasse, déchirée à la doublure dans un coin, était jetée négligemment sur l'épaule, sans aucune considération pour le contraste qu'elle et son propriétaire marquaient avec l'élégance de la pièce. Il était d'une maigreur désespérante, et sa grosse moustache en guidon de vélo semblait alourdir encore son visage lorsqu'il le baissa vers son fils. Les pistolets lui saignaient les hanches en un angle idéalement pensé pour ses mains, et les crosses en bois de santal paraissaient mornes et amorphes sous cette lumière d'intérieur languissante. « Le chef cuisinier, » dit son père doucement. « Ça alors ! Les rails qu'on a fait sauter en tête de ligne sur le plateau, le bétail mort à Hendrickson, et peut-être même... Ça alors ! Incroyable !» Il posa sur son fils un regard plus attentif. « Tu es en proie à la tourmente ?»« Une proie comme pour le faucon, » répondit Roland. Il rit, non pas devant la légèreté de la situation, mais devant l'incongruité flagrante de cette image. Son père sourit. « Oui, » fit Roland. « J'imagine que je suis en proie à la tourmente. » « Cuthbert était avec toi, » reprit son père. « À l'heure qu'il est, il doit en avoir parlé à son père. »« Oui. »« Il vous a donné à manger à tous les deux quand Cort, oui. »« Et Cuthbert, tu penses qu'il est en proie à la tourmente, lui aussi ?»«
Je ne sais pas. »
Il s'en moquait. Peu lui importait les comparaisons entre ses sentiments et ceux des autres. « Cela te tourmente car tu as l'impression d'avoir causé la mort d'un homme ?» Roland haussa malgré lui les épaules, peu satisfait de cette introspection forcée. « Pourtant, tu as parlé. Pourquoi ?» Les yeux du garçon s'écarquillèrent. « Comment aurais-je pu faire autrement ?» La trahison et son père le fitèrent d'un geste brusque de la main. Si tu l'as fait dans le souci bien bas de suivre ton manuel, dans ce cas, tu as agi indignement. J'aimerais mieux voir tout Taunton empoisonné. Ce n'est pas ce que j'ai fait ! Les mots jaillissaient violemment de sa bouche. Je voulais le tuer, les tuer tous les deux, menteurs, menteurs noirs, serpents, ils continuent, ils m'ont fait mal ! Poursuivit-il d'un air de défi. Ils ont changé quelque chose et ça fait mal. C'est pour cette raison que je voulais les tuer. Les tuer, là, sur le champ. Son père hocha la tête. Voilà qui est grossier, Roland. Mais pas indigne. Ni moral, d'ailleurs. Mais la morale n'a rien à faire ici. En fait, il scruta le visage de son fils. La morale te dépassera sans doute toujours. Tu n'es pas rapide comme Cuthbert ou le garçon de Banny. Mais c'est bien comme ça. Tu n'en seras que plus redoutable. Le garçon se sentit à la fois content et troublé par ces paroles. On va le pendre, oui. Le garçon acquiesça. Je veux y assister. L'aîné des Descane balança la tête en arrière et partit d'un grand éclat de rire. Pas aussi redoutable que je le pensais, ou peut-être seulement stupide. Il referma brusquement la bouche. Un bras jaillit et vint saisir celui du garçon avec violence. Roland grimaça mais ne recula pas. Son père l'observa attentivement. Le fils lui rendit son regard, bien que cela fût plus difficile que d'enchaperonner le faucon. « Très bien, » dit-il, « tu le pourras. » Il fit volte-face pour s'en aller. « Père !» Oui. Savez-vous qui est l'homme de bien? Le père se retourna et lui lança un regard inquisiteur. Oui, je le crois. Si vous l'attrapiez, hasarda Roland d'un ton impliqué et presque lourdaud, on n'aurait plus à faire sauter le cou du cuisinier, ni de personne d'autre. Son père eut un petit sourire. Pour un temps, peut-être pas. Mais il faut toujours que quelqu'un finisse par se faire sauter le cou, comme tu l'as dit de manière si pittoresque. C'est le peuple qui l'exige. Tôt ou tard, si l'on ne trouve pas de renégat, le peuple s'en crée un. Oui, répondit Roland, saisissant immédiatement le concept, un de ceux qu'il n'oublia jamais par la suite. Mais si on attrapait l'homme de bien, non! Fit son père sur un ton catégorique. Pourquoi? Pourquoi ça ne mettrait pas fin à tout ça? Pendant un instant, son père sembla sur le point de lui révéler pourquoi, puis il secoua la tête. Nous avons assez parlé pour le moment, il me semble. Retire-toi. Il aurait voulu rappeler à son père de ne pas oublier sa promesse quand viendrait l'heure pour Axe de passer à la trappe, mais il était sensible aux sautes d'humeur de son père. Il porta le poing à son front, croisa les pieds et s'inclina devant lui. Puis il sortit en fermant rapidement la porte. Il soupçonnait son père d'avoir surtout envie de baiser pour le moment. Il avait conscience que son père et sa mère le faisaient, et il était raisonnablement informé sur la façon dont cela se pratiquait. Mais l'image mentale qui accompagnait toujours cette pensée lui laissait une impression de malaise et bizarrement de culpabilité. Quelques années plus tard, Suzanne devait lui raconter l'histoire d'Œdipe, qu'il allait assimiler en silence, en repensant avec gravité à cet étrange triangle maudit formé par son père, sa mère et Martin, ce dernier connu dans certaines zones sous le nom de Farson, l'homme de bien. Ou peut-être s'agissait-il d'un rectangle, si quiconque désirait y prendre place.